Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, l'heure trop triste vient toujours où le bonheur, cette confiance absurde et superbe dans la vie, fait place à la vérité dans le cœur humain. Cette phrase, écrite par Céline dans la préface de sa thèse de médecine en 1924, avant la rédaction de ses grands romans, Vérité crue de la nature humaine à la place du bonheur, en dit long sur l'état d'esprit de cet écrivain de génie devenu misanthrope qui va être au cœur de ce numéro du magazine Idée. Nous allons en effet revenir sur la découverte sensationnelle de nouveaux manuscrits de Louis Destouches ou Louis-Ferdinand Céline et parmi eux le premier jet d'un roman intitulé Guerre, publié chez Gallimard, dont nous allons parler dans un instant avec nos deux invités, Pascal Fouché qui est historien spécialiste de l'édition et de Céline notamment et Alban Cerisier, éditeur en charge du fonds patrimonial de Gallimard. Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver, télécharger sur le site de la radio ou sur votre plateforme numérique préférée afin de l'écouter quand vous le souhaitez. Bonjour Alban Cerisier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans ce micro. Nous avions parlé ensemble d'Antoine de Saint-Exupéry dans cette émission. Ça remonte déjà à quelques années, le
Exactement.
Temps passe.
Hein. Exactement.
Bonjour Pascal Fouché.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, dans cette émission. Je le disais, vous êtes un spécialiste de Céline et vous avez travaillé ardemment sur le texte qui va être au cœur de cette émission Guerre. Vous avez édité, établi ce texte chez Gallimard. C'est un événement très très important, considérable même pour la littérature française et l'aboutissement d'une aventure éditoriale hors du commun.
Ah, c'est un événement, forcément, c'est un événement littéraire. Retrouver des manuscrits si longtemps après leur disparition, alors que tout le monde les croyait perdus, disparus, et c'est vraiment exceptionnel. Et c'est une chance formidable pour quelqu'un qui aime Céline, comme c'est mon cas, de pouvoir travailler sur un tel manuscrit et de découvrir que c'est une œuvre sans égale, si je puis dire, que c'est un texte qui parle de lui-même, qui est relativement bref par rapport aux autres œuvres de Céline, mais qui, justement, peut-être que sa brièveté fait sa force. Et c'est tout à fait passionnant.
Alors on va replacer ce texte dans son contexte, on va parler de ce texte, Guerre, et on va le replacer dans son contexte. Et voilà le fonds Gallimard enrichi, Alban Cerisier.
Oui, en tout cas le catalogue des éditions Gallimard. Gallimard a été le deuxième éditeur en réalité de Céline, puisqu'il a commencé son œuvre littéraire chez De Noël. De Noël, et puis dans les circonstances particulières, après-guerre, Céline s'est retrouvée, l'œuvre de Céline s'est retrouvée réunie au sein du catalogue Gallimard. Et en reprenant les anciens titres et puis les nouveaux livres qu'il a publiés après-guerre. Et c'est sûr que, comme disent les anglo-saxons, c'est une sorte d'achèvement d'une certaine façon de pouvoir avoir cette chance de prolonger ce travail qui a commencé, cela dit, il y a plusieurs années, puisque en fait le travail sur Céline n'a jamais cessé. Après la mort de Céline, hein, comme pour beaucoup d'écrivains.
En 1961.
Voilà, et il y a vraiment eu beaucoup de travaux auxquels Pascal Fouché, d'ailleurs, a très largement contribué, et d'autres, Henri Godard, Jean-Pierre Dauphin, etc. Il y a une tradition bibliographique autour de Céline chez Gallimard, c'est incontestable.
Céline sans cesse redécouvert, en quelque sorte. Alors, ces textes, Céline les avait perdus en 1944, c'est cela ?
Céline les a laissés dans son appartement rue Girardon quand il a quitté Paris en 1944, en juin 1944, pour gagner l'Allemagne d'abord et le Danemark ensuite. Et quand il est rentré en 1951, ses manuscrits n'étaient plus là. Il a su qu'il y avait eu plusieurs visites et plusieurs personnes qui avaient occupé cet appartement. Et comme les manuscrits avaient disparu, il a crié au vol et à la disparition. Et il a dit qu'on lui avait volé ces manuscrits sur lesquels il avait travaillé il a dit qu'il y avait un manuscrit de Casse-Pipe complet, en particulier, et d'autres manuscrits dont on ne savait pas exactement ce qu'il contenait, même si, effectivement, il avait parlé de la légende médiévale dont il se sert dans Mort à crédit, qui s'appelle « La volonté du roi Crogod », qui a également été retrouvée.
Qui sera édité à l'automne.
Voilà, mais on ne savait pas très précisément ce qu'étaient ces manuscrits. Et lorsque, l'été dernier, donc, ces manuscrits, un certain nombre de manuscrits ont réapparu, on a découvert avec bonheur que certains étaient inédits.
Nous n'allons pas entrer dans le détail de cette découverte et des différents avatars qui ont conduit à ce que ces textes soient révélés, mais quand vous dites manuscrits, ce sont des milliers de pages.
Plusieurs milliers de pages, entre 5 et 6 000 pages manuscrites, qui effectivement, il y a un manuscrit de Mort à crédit, par exemple. Donc, Mort à crédit a été publié en 1936. Des morceaux de manuscrits de Guignol's Band, aussi, qui a été publié en 1944. Et puis, il y avait ces manuscrits inédits, dont on ne connaissait pas l'existence, au moins pour Guerre et pour Londres, dont on ne connaissait pas non plus la qualité. Donc on pouvait se poser la question de savoir est-ce que c'était des fonds de tiroir ou est-ce que au contraire, ce seraient des œuvres majeures.
Alors donc il y a une nouvelle édition, enfin il y a Casse-Pipe, on va revenir sur ce livre, mais il y a deux inédits qui sont Guerre, celui dont nous allons parler, et Londres. C'est cela, Alban Cerisier ?
Oui, et d'ailleurs ce sont des manuscrits qui se suivent, puisque Londres, ça, on l'a compris une fois qu'on a commencé à transcrire et à faire transcrire ces manuscrits, Londres est la suite de Guerre. Donc les lecteurs de Guerre, qui ont pu découvrir Guerre il y a quelques jours, vont pouvoir continuer leur lecture à travers Londres. Comme Pascal Fouché l'a dit, Guerre est un petit texte qui correspondait à 250 feuillets manuscrits. Londres, c'est beaucoup plus, et ça sera un livre d'environ 450 pages. Là aussi, un roman dans la continuité des aventures de ce fameux Ferdinand, qui est le héros principal.
Bardamu.
Voilà, qui est le prolongement de Bardamu, effectivement, du voyage, bien entendu, et qu'on suit à des endroits où on ne l'avait pas véritablement suivi dans Voyage. Et c'est ça aussi. Alors, les Séliniens savaient qu'il y avait eu un projet dans l'entre-deux-guerres de prolongement, par extension, je dirais, par amplification, de Voyage au bout de la nuit chez Céline, lui permettant d'investir des périodes qu'il n'avait pas traitées dans Voyage.
Alors c'est là, Alban, qu'il va falloir que nous expliquions un certain nombre de choses, qu'il faut absolument remettre ce texte dans son contexte et parler de l'œuvre de Céline. Je me tourne vers vous, Pascal Fouché. Il faut dire que on ne va pas refaire la vie de Céline maintenant, ce n'est pas l'objet, mais il faut quand même parler de sa vie. Une vie qui a d'abord été dédiée à la médecine.
Tout à fait. Il a fait des études de médecine tardivement, puisque c'est seulement après la Première Guerre. Donc après avoir passé 2 ans à l'armée et plusieurs mois pendant la guerre, au front, et la guerre se situe justement à cette période. Et c'est ça n'est qu'après la guerre qu'il a fait des études de médecine, qu'il a publié sa thèse d'ailleurs, et qu'ensuite il s'est mis à écrire son premier roman, qui va être publié en 1932.
Et sa thèse, il faut s'y arrêter, sa thèse de médecine, qui est déjà une œuvre en tant que telle.
Effectivement, on sent déjà la patte de l'écrivain dans cette,
1924.
Dans cette thèse. Il raconte l'histoire d'un médecin. On pourrait penser que c'est une thèse de médecine très ennuyeuse, alors qu'on sent déjà l'écriture de Céline qui pointe quelque part. Et c'est ensuite qu'il a écrit son premier roman, « Voyage au bout de la nuit », qui a été publié donc par De Noël en 1932, qui a raté le Goncourt de Peu et qui a obtenu le prix Renaudot en 1932.
Les jurés du prix Goncourt ont eu du nez cette année-là, il faut le préciser. Alors, Voyage au bout de la nuit, c'est une œuvre considérable. Certains de nos auditeurs ne connaissent peut-être que ce livre. C'est un livre qui est un livre de dénonciation de la guerre, du colonialisme, qui est un livre aussi de dénonciation du capitalisme, en quelque sorte, Alban.
Des ravages du libéralisme, voilà, et de la mécanisation des tâches, du fordisme, etc.
Parce que Céline avait été... été aux États-Unis en tant que médecin, justement, pour visiter.
Et il a pu voir le système Ford de près.
Les usines automobiles de Détroit.
Voilà. Donc, tout ça, effectivement, et il y a aussi la dénonciation du colonialisme. Donc, il y a effectivement une dimension très sociale et de critique sociale très, très présente dans Voyage au bout de la nuit, même s'il le définit lui-même comme une symphonie littéraire. Donc, il le définit dans une lettre absolument extraordinaire, d'ailleurs, qu'il envoie à Gaston Gallimard en 1932, que nous exposons à l'exposition consacrée au manuscrit de Céline à la Galerie Gallimard. Il dit, en fait, Gaston Gallimard, je pense qu'ils avaient des petits problèmes pour gérer le nombre de manuscrits qui arrivaient, alors il demandait aux auteurs, c'est pratique, d'envoyer un résumé de leur livre. Alors, et donc on dispose d'un document exceptionnel où Céline décrit, résume et explique ce que c'est que Voyage au bout de la nuit.
Il n'y a que lui qui pouvait le faire.
Voilà. Et il le décrit d'abord comme quelque chose de musical. Voilà, ce qui est pour moi un signe, c'est-à-dire qu'il y a, il y a évidemment la critique sociale, il y a la violence déjà contre la guerre, enfin, qui est omniprésente, contre la vacherie humaine, tout ça, toutes ces thématiques-là sont déjà totalement en place. L'attention aussi à la misère humaine, le médecin, bien entendu, l'importance du soin apporté aux autres, même de cette attention particulière à la misère des hommes. Voilà.
Ah, parce qu'il faut le préciser également, il le raconte dans ses livres, qu'il a été médecin dans des dispensaires,
exactement,
de la banlieue parisienne.
Exactement, à Clichy, ouais, etc. Clichy, ouais. Voilà. Donc tout ça est très présent dans Voyage, une espèce de roman picaresque, là, où on suit les aventures de Bardemu. Et il y a un côté, moi c'est ce qui me touche beaucoup aussi dans Voyage, il y a un côté moraliste qu'on oublie un peu chez Céline, tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà. Avec notamment une dimension humaniste très très forte. Voilà. C'est-à-dire en même temps qu'il présente que la mort est partout au coin de la rue, en même temps il ne cesse de dire qu'il y a quelque chose à sauver, quoi, dans le même moment. Et pour ça, il y a ce côté très moraliste, il fait des maximes, il s'arrête dans ses récits pour dire voilà le sens de ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses à retenir de tout ce que je vous dis.
Pascal Fouché, il y a ensuite, par ordre chronologique en quelque sorte, dans l'œuvre de Céline, Mort à crédit.
Oui, alors son premier roman, Voyage au bout de la nuit, est un immense succès critique, populaire. Vraiment, on découvre un véritable écrivain. Et il se met à écrire Mort à crédit, dont il dit à son éditeur, pendant qu'il l'écrit, qu'il contiendra trois parties, enfance, guerre et Londres. Et puis... la première partie devient tellement importante, consacrée donc à son enfance, l'enfance de Ferdinand, son enfance
à Paris, passage Choiseul,
quelque part, à Paris, en Angleterre, en Allemagne, où il a fait des voyages scolaires. Enfin, c'est un roman d'initiation quelque part. Et la partie d'enfance prend une telle dimension qu'il décide avec Robert de Noël de ne publier que cette partie qui devient Mort à crédit. Et donc, quand on a découvert ces manuscrits de guerre et de Londres, on a tout de suite fait le rapprochement avec ce qu'il avait dit, qu'effectivement, on ne savait pas s'il avait écrit cette suite de l'enfance, finalement. On pensait que guerre, ça pouvait être casse-pipe. On pensait que Londres, ça pouvait être Guignol's Band. Et on découvre qu'il y a vraiment quelque chose sur la guerre et qu'il y a vraiment un manuscrit qui s'appelle Londres. Ce qui est une découverte formidable et qui remet complètement en situation la chronologie de la rédaction de son œuvre, puisque, effectivement, il l'a annoncé tel quel, et le retrouver aujourd'hui, c'est formidable.
Alors il faut dire, il faut rappeler également qu'il est l'auteur de pamphlets antisémites
dans les années 30. Mort à crédit est beaucoup moins bien accueilli que Voyage au bout de la nuit, est assez controversé, d'ailleurs fait assez rare, son éditeur prend même la plume pour le défendre, Robert de Noël écrit une apologie de Mort à crédit pour défendre son auteur, parce qu'il estime qu'il est injustement traité. C'est vrai que le deuxième roman d'un auteur, c'est toujours attendu au tournant, quelque part.
On a écrit Voyage au bout de la nuit comme premier livre.
qu'est-ce qu'il va écrire ? Donc, il est mal reçu et Céline est effectivement très déçue de cette réception. Et c'est le moment où il écrit ses écrits polémiques.
Un an plus tard, en 1937. Mort à crédit, il y a Bagatelle 130, pour un massacre.
Voilà, 1937, Bagatelle. 1938, l'école des cadavres. C'est cette période qui fait que probablement il a abandonné la rédaction de ces manuscrits qu'on a retrouvés, puisque effectivement on a des premiers jets, on a donc des premières versions, et il ne les a jamais repris, il ne les a jamais retravaillés. Alors que Céline travaillait énormément ses manuscrits.
Il a continué à écrire après, et évidemment, il y a Guignol's Band, c'est son passage à Londres qu'il a écrit en 1944, Casse-pipe en 1949. On va reparler de Casse-pipe parce que c'est important de par rapport à cet ouvrage Guerre, et puis la, ce qu'on appelle la trilogie allemande, D'un château à l'autre, Nord et Rigaudon, à la fin de sa vie. Ayant été publié après sa mort.
Après sa mort, absolument. Ouais.
Donc c'est une œuvre qui est assez... Il y a les romans et puis ces pamphlets antisémites qui jettent une ombre sur le personnage et même sur l'écrivain.
Oui, mais ces romans, ces écrits polémiques, c'est une période, effectivement. Il a écrit des choses abjectes, on ne peut pas le nier. Mais ça n'enlève rien au reste de son œuvre, qui est une véritable œuvre littéraire, dans laquelle il se met toujours en situation. Que ce soit dans Voyage au bout de la nuit, dans Mort à crédit, dans Guignol's Band, on sait que c'est son expérience juste après-guerre à Londres. Après, il écrit Ferry pour une autre fois, qui est aussi sa propre expérience, et la trilogie allemande où il raconte justement son départ en Allemagne, dont on a parlé tout à l'heure, à la fin de la guerre.
Alors avant de revenir à Guerre, qui a été donc écrit en 1934, et vous nous direz pourquoi vous pensez qu'il a été écrit en 1934, du reste, je voudrais que nous attardions sur le style de Céline avec deux extraits d'entretiens qui datent des années 50, 1957 et 1958 pour être précis. D'abord, une émission où il répond aux questions d'un journaliste de la radio suisse romande, Albert Sbinden, dans lequel il parle de son style. Il se définit comme un coloriste.
Je suis un styliste, j'ai cette faiblesse, et je crois que c'est une faiblesse peu répandue. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas ? C'est envoyer des messages ou des pensées profondes. Je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas ? Et j'ai qu'à regarder dans la médecine, je vais être plein, je vais facilement briller, étinceler, n'est-ce pas ? Non. Donc je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Alors, je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Proust s'occupait des gens du monde. Je me suis occupé des gens qui venaient à ma vue et à mon observation. Et alors, j'ai décrit leurs petites histoires avec un style qui, paraît-il, est le mien.
Louis Destouches, Louis-Ferdinand Céline, en 1957. Céline et Proust, c'est, j'allais dire, le même combat, Pascal Fouché, le même objectif, le même but.
L'objectif, c'est de faire partager leur expérience, mais ils ne le font pas partager du tout de la même façon.
Sauf que vous êtes un spécialiste de Proust, donc j'en profite.
Non, Proust raconte effectivement le milieu dans lequel il vit. Céline a un tempérament beaucoup plus social, effectivement, et Céline part de son expérience et puis il la transforme, soit il l'enjolive, soit au contraire, il l'assombrit, mais il raconte ce qu'il a vécu et il le transforme de façon à en faire un objet littéraire qui lui est propre. Et avec un style, effectivement, qui lui est propre, qui est plutôt classique au départ, Voyage au bout de la nuit, d'une écriture plutôt classique, effectivement. Et progressivement, il acquiert un style dont il dira, et dont il dit d'ailleurs, c'est sa petite musique à lui, qui sont des phrases courtes, des points d'exclamation ou de suspension très, très, très nombreux. On sent quelque chose qui est très, très, très fort, très, très puissant, qui sort de lui-même d'une façon époustouflante. Il a envie d'exprimer quelque chose de différent et d'affirmer son propre univers et son propre style, ce qui réussit parfaitement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est encore considéré comme un des écrivains majeurs du XXe siècle et qu'il est encore lu et que Guerre fait le succès qu'il a aujourd'hui.
Alban Cerisier, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait des propos de Céline, toujours sur le style. Et là, il s'agit d'un entretien avec André Parinaud en 1958. En quoi ce style fait le génie de Céline ?
Vous avez quand même conscience d'avoir inventé quelque chose ?
Oh, tout petit. Ça, dans ce côté-là, je ne suis pas du tout d'accord avec la publicité actuelle qui veut que tout soit formidable, étonnant, n'est-ce pas ? Mais non, c'est pas formidable, étonnant, n'est-ce pas ? C'est simplement un petit truc, c'est le langage parlé à travers l'écrit.
Vous avez inventé ça, vous avez réussi à communiquer dans le langage parlé,
l'émotion
du moins dans le langage écrit,
l'émotion du langage parlé. Oui, mais ceci ne se fait qu'au prix d'un abominable effort, parce que la feuille de papier n'a pas envie de ça, elle n'a pas envie. Alors, je crois que les peintres ou les musiciens sont dans le même état. Il s'agit de préciser et de mettre à froid une affaire qui est née dans l'enthousiasme. L'enthousiasme veut dire du grec le Dieu qui est en nous. Ben, le Dieu qui est en nous, il ne tient pas du tout à être griffouillé sur du papier. Socrate disait que le langage écrit était toujours mauvais, que le langage parlé seul avait de la valeur. Il y avait du vrai là-dedans. Mais moi, je suis plus fort que Socrate, j'essaie de faire passer le langage parlé dans l'écrit. J'y suis parvenu dans une certaine mesure, et je crois assez bien. Oui, assez bien. Ceci ne s'obtient qu'au prix d'un effroyable effort, qui consiste à vraiment surveiller 80 000 pages, pour le dire, faire 80 000 pages appuyées, pour en arriver à faire 800 ou 1000, n'est-ce pas ? Et travailler.
Vous écrivez tous les jours ?
Ah, tous les jours, ça vraiment oui. Quand je peux, parce qu'enfin, je suis multilingué en 75%, j'ai une balle dans la tête, je suis invalide, et ce métier-là me fatigue en plus, n'est-ce pas ?
Pascal Fouché, Alban Cerisier, je vous sentais très attentif en écoutant Céline. Alban Cerisier, il parle d'effroyable effort.
Ouais, non, mais c'est extraordinaire. En fait, on sait que toutes les grandes œuvres portent un art poétique avec elles. C'est le cas de Céline. C'est-à-dire quand il écrit, il invente un art poétique et il ne lâche jamais son intention d'écrivain. Et c'est une lutte, effectivement, parce que la matière dont il parle, matière biographique, mais il la malaxe, il en fait quelque chose de fondamentalement très très différent de ce qui s'est réellement passé. C'est pas ça qui l'intéresse, ce qui s'est réellement passé, c'est ce qu'il en fait. Donc ses romans sont assez ironiques, parce qu'il nous fait croire que c'est... Quand on lit en première lecture, on se dit, bah voilà, c'est un récit biographique. Et puis en fait, on voit qu'il ne cesse de jouer avec cette matière-là pour aller chercher les vérités au-delà. Donc il les cherche dans la narration elle-même, dans les épisodes, dans le sens même des actions qui s'enchaînent, et puis les cherche profondément dans la langue, effectivement, en intégrant ce langage parlé. Et il dit, c'est pour ça, et c'est, la question d'émotion, elle est essentielle, hein, et c'est ce qu'il rattache avec la question du peintre, qui était évoqué d'ailleurs, il avait des amis peintres, c'est qu'en fait, il va chercher l'émotion. Paul Valéry disait que la poésie, c'était une émotion qu'on avait réussi à saisir et à rendre pérenne. Rendre pérenne une émotion. C'est ça l'enjeu d'un écrivain. Et c'est ce que Céline fait de l'intérieur même de la langue. De sorte que, quand on prend son livre aujourd'hui, quand on prend Guerre, on est bouleversé. Or, c'est quelqu'un de 1934 qui nous parle. C'est parce qu'il a le génie de l'image qui nous émeut, quoi, en fait, tout simplement.
Et Pascal Fouché, il a l'élégance de dire aussi qu'il ne faut pas que le lecteur sente le travail qu'a représenté son œuvre.
Oui, c'est une des caractéristiques de son écriture, c'est qu'il fait plusieurs versions de ses textes jusqu'à ce qu'il sente lui-même qu'il a abouti à quelque chose qui effectivement est suffisamment fluide et suffisamment prenant pour son lecteur. Et ça, c'est effectivement un énorme travail. Il parle de 80 000 feuillets, il exagère probablement évidemment, aussi, mais ce sont plusieurs milliers de pages qu'il noircit pour arriver à ce qu'il juge effectivement suffisamment abouti pour être publié. On connaît des manuscrits de Voyage au bout de la nuit, on connaît des manuscrits de Mort à crédit, et qui sont des versions en fait successives d'un texte dont il a fait un premier jet comme Guerre, et qu'il a ensuite retravaillé considérablement.
Et d'ailleurs, si nos auditeurs qui vivent à Paris ou en France peuvent passer à la galerie Gallimard, il faut qu'ils le fassent absolument. Ils sont exposés des manuscrits de Céline. Et là, on voit très bien, et là, Pascal Fouché, on doit vous tirer un grand coup de chapeau, le caractère illisible de l'écriture de Céline.
Alors,
je parle de la...
De la matière même, l'écriture. C'est sûr que Pascal Fouché, moi j'ai eu le plaisir de travailler avec Pascal pour aboutir à la publication de Guerre. Et il a un immense mérite parce qu'il y a plusieurs difficultés en réalité. Tout simplement, des choses. Céline utilise énormément d'abréviations. Voilà. Oublie de former certains mots en réalité, notamment des mots de transition, etc. Alors ça, c'est l'abréviation, la pratique de l'abréviation, ça remonte à plusieurs siècles dans les manuscrits et pas que dans les manuscrits littéraires. Mais on le voit bien, et là, c'est vrai que c'est poussé à son paroxysme à certains moments où il faut vraiment très très bien maîtriser et baigner totalement dans l'œuvre célinienne pour arriver finalement à lire ce qui n'est pas écrit. C'est pas qu'on invente, naturellement. On transcrit jusqu'à la part invisible, d'une certaine façon.
Avec beaucoup de ratures. Oui. Il faut voir ça. Donc, à la galerie jusqu'au 16 juillet, pour ceux qui auraient la chance d'y passer, c'est l'entrée libre, gratuite, et c'est l'après-midi, je crois.
Oui, c'est ça. C'est à partir de 13h du mardi au samedi, à l'université.
C'est un conseil que je donne. Il y a aussi des reproductions de quelques pages dans le livre, Guerre. Donc, vous avez été Champollion, en quelque sorte.
Écoutez, j'avais la chance d'avoir déjà travaillé sur des manuscrits de Céline. C'est pour ça qu'on a fait appel à moi. Et effectivement, c'est un manuscrit. Donc, comme on l'a dit, c'est la première version d'un texte. Donc, forcément, très, très rapidement écrit. On sent que Céline porte quelque chose en lui qu'il veut faire partager à tout prix, et on sent une rage de faire partager ça. Et le récit qu'il fait donc de la guerre, ce sont les circonstances du livre, dans ce récit, on sent que la guerre est toujours présente. Et on est 20 ans après les faits, et on sent qu'il a été tellement marqué par cette guerre et par ses blessures aussi, qu'il en est totalement imprégné et qu'il arrive à nous faire partager cette ambiance de guerre, cette ambiance de bombardement pas loin, et cette blessure à la tête dont il dit que c'est une balle. En fait, on sait que ça n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment reçu une balle, mais il a pris un coup sur la tête qui lui a occasionné des bourdonnements. Et quand on le lit, on a l'impression d'y être et de l'entendre.
Alors, il faut préciser l'action en fait que raconte Guerre. Il est blessé, et c'est le récit de son hospitalisation, en quelque sorte, avec des rencontres assez étranges.
Tout à fait. Alors ça correspond à la réalité, puisque effectivement il a été blessé à la fin du mois d'octobre 1914, et il a été conduit dans deux hôpitaux successifs où il a été opéré. Il avait une balle dans le bras, effectivement, et il a été opéré du bras.
Donc en Belgique et dans le nord de la France.
En Belgique. Ouais. Et voilà. Et il a été blessé en Belgique et il a été hospitalisé
à Ypres et à Hazebrouck,
qui devient perdu sur la Lys dans le roman. Et le récit commence au moment où il se réveille sur le champ de bataille, où tous ses camarades sont morts, et il erre dans la campagne avant de retrouver donc des soldats qui l'emmènent à l'hôpital. Et il raconte cette expérience à l'hôpital qui est pour le coup rocambolesque.
Et bien, je vous propose d'écouter un extrait du début du récit. Au tout début, il est sur le champ de bataille. Et il attend qu'on vienne le sauver, en quelque sorte.
Ma torture de tête, je l'entendais bien fort dans la campagne, si grande et si vide. Je me faisais presque peur à m'écouter. Je croyais que j'allais réveiller la bataille tellement que je faisais du bruit dedans. Je faisais à l'intérieur plus de bruit qu'une bataille. Dans un coup de soleil au loin, il monte dessus les champs un vrai clocher, un énorme. Va par là, je me dis. C'est une destination comme une autre. Et puis je m'assoye, avec mon grand bousin dans la tétère, mon bras en morceaux, et je me force à me souvenir de ce qui venait d'arriver. Je pouvais pas. C'était la foire, question de mémoire. Et puis d'abord, j'avais trop chaud. Même le clocher, il variait de distance. Il transperçait dans mes yeux, tout près, plus loin. C'est peut-être un mirage, que je me dis. Mais je suis pas si con, puisque j'ai si mal partout. Le clocher existe aussi. C'était une manière de raisonner, de retrouver de la foi. Me revoilà encore parti dans le bas-côté de la route. À un détour, un mec dans le fond bouseux bouge. Sûrement qu'il me voie. Je pense que c'est un cadavre qui se tortille. Sûrement que j'aille la berlue. Il était habillé en jaune, avec un fusil. J'en avais encore jamais vu des attifés comme lui. Il tremblait, le mec, ou c'était moi. Il me fait signe que j'avance. J'y vais donc, je risquais rien. Il me parle alors de près. Je reconnais tout de suite. C'était un Anglais.
Voilà le style Céline, Alban Cerisier, formidable. Hein.
Ah oui, c'est bouleversant en réalité, vous vous rendez compte.
Premier jet.
Et on voit bien d'ailleurs le manuscrit. Hein. C'est un manuscrit où effectivement il y a de l'emportement, mais quand même, c'est un manuscrit qui laisse penser que Céline sait parfaitement là où il va. C'est pas un plan, c'est pas des bouts de notes par-ci par-là, il met pas à penser à dire ça, enfin voilà, parce qu'on a des manuscrits de ce type-là. Non, il nous mène d'un endroit, on arrive à un autre, il se passe des tas de trucs, des fois c'est un peu la pagaille, des fois il se trompe dans les prénoms, etc. Peu importe. Et, je veux dire, le fil narratif, il est là, il est extrêmement puissant et dévastateur. Dévastateur. Parce qu'il nous parle de la guerre au front, certes, mais comme vous le disiez tout à l'heure, à l'hôpital, l'endroit où on est censé quand même être soigné. Or, le front, il est aussi dans l'ambulance. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que la vacherie humaine, il la met dans ce climat de soins, comme on dit aujourd'hui, porté par une infirmière, la fameuse môme Lespinasse, qui est absolument incroyable. Enfin, c'est très, très puissant.
Avec laquelle il a des relations, on ne sait pas de quel ordre, on ne sait pas si c'est vrai, hein, des relations sexuelles. D'ailleurs, à propos de sexe, c'est vraiment Eros et Thanatos, ce récit.
Totalement. La mort est...
Pascal Fouché.
La mort est présente du fait de la guerre, forcément, et qu'il l'a côtoyée tellement près qu'elle l'obsède complètement, et tout le long du récit, on le sent. Il a peur aussi, il le raconte, il a peur de passer en conseil de guerre et d'être fusillé. Donc il a peur de ce qui peut lui arriver.
Il a quelque chose à se reprocher.
Et on sent qu'il a quelque chose à se reprocher, mais il reçoit une médaille. Il
est sur un malentendu.
et donc, du coup, il est plus ou moins sauvé, mais la mort reste présente. Et le sexe, il y a des phrases effectivement très crues.
Alors, pour être clair, il fait connaissance avec un autre blessé qui s'appelle Cascade, Bébert, qui est un souteneur en fait et qui fait venir sa, oserais-je le dire, sa gagneuse,
oui. qui est sa femme.
Et qui est sa femme.
La fameuse Angèle.
Et là, donc, ça crée tout ça un climat assez étrange.
Absolument, parce qu'il y a donc cette aventure avec l'infirmière, et puis il a une aventure ensuite avec la femme de Cascade, qui a dénoncé son souteneur de mari, comme quoi il s'était automutilé, donc il s'était tiré une balle dans le pied pour revenir à l'arrière. Elle le dénonce et Ferdinand a ensuite une aventure avec elle, et c'est avec elle qu'il va partir à Londres et on va les retrouver tous les deux dans Londres dans le prochain manuscrit qui sera publié.
Alors il y a le tragique, il y a le sordide, il y a la vérité crue dont je parlais au tout début de l'émission. Il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a une scène absolument incroyable qui est la scène du déjeuner en fait. C'est-à-dire qu'il est invité, lui et son camarade, et la femme de son camarade, à un dîner chez des notables de la ville, Hazebrouck, dans laquelle il se trouve. Dehors défilent en contrebas les militaires. Et puis là, il va y avoir un règlement de compte entre Angèle, donc cette prostituée, et son souteneur, en plein milieu des notables.
Oui, c'est tout à fait étonnant. Il y a ses parents qui sont là. Et
les parents de Ferdinand.
Les parents de Ferdinand.
Ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe, du reste.
Totalement. Et ils sont accueillis par un collègue de son père, en fait, qui travaille dans la même compagnie d'assurance.
Alors des gens comme il faut.
Voilà, tout à fait, avec leurs enfants, et qui les accueillent à leur table, c'est
gentiment.
Gentiment, comme des héros de guerre, puisque ce sont des blessés de guerre. Lui vient de recevoir sa médaille, donc c'est un héros. Et puis il y a cette scène époustouflante où effectivement Angèle et Bébert, qui est devenu Cascade, s'envoient des invectives et elle lui sort ses quatre vérités et c'est là qu'elle dévoile en fait qu'il s'est automutilé.
Et Bébert essaie de se défendre, et sa tactique de défense, c'est de chanter une chanson très mielleuse, très sentimentale, comme il en faisait à l'époque. Ce qui montre bien que le sujet, c'est le mensonge. C'est comment les hommes se mentent à eux-mêmes. Voilà. Et ils se mentent notamment au travers du langage. C'est pour ça que le langage est essentiel dans ce bouquin, comme dans toute l'œuvre de Céline. C'est que le mensonge est situé dans le langage, dans les petites chansons, dans le langage des parents. Il dit, ça, y a rien de plus dégueulasse que les lettres que m'envoyait mon père. Les lettres qu'envoyait son propre père lorsqu'il était en train de se faire soigner à Hasbrouck. Donc, il dit, c'est tout ce que je déteste au monde. Moi, je voudrais en voir ma petite musique à moi, au moins le temps de vivre, où je puisse parler avec mes mots, et pas avec les mots qu'on me donne. Et là, c'est là où on retrouve l'art poétique, dans les événements même de la guerre, quoi.
Alors, on ne va pas tout raconter, il faut vraiment lire ce livre par tous les moyens. Mais il y a aussi des scènes, la scène qui leur permet de partir, lui, Ferdinand et Angèle, à Londres, est quand même croquignolesque également, hein, par le biais de clients de Cascade. C'est quelque chose d'assez étonnant. Mais pourquoi il y a tant de sexe dans ce livre ?
C'est une question qu'on peut se poser. On a l'impression qu'il y en a plutôt plus que dans ces autres œuvres.
En 150 pages, c'est son récit le plus court.
Voilà. Alors, est-ce que c'est une période... on sait que Céline a été abandonnée, si je puis dire, par sa compagne, qui était une Américaine, Elizabeth Craig,
qui est une danseuse.
À qui il avait dédié le Voyage au bout de la nuit. Elle est repartie aux États-Unis. Donc, il va essayer d'aller la récupérer là-bas. Il n'y parvient pas. Donc on pense que c'est dans cette période-là qu'il écrit. Donc est-ce que ça le touche ? Mais on ne sait pas non plus s'il l'aurait publié tel quel. Est-ce qu'il aurait laissé autant de scènes de sexe ? On n'en sait rien.
Alban Cerisier.
Ouais, il répond d'une certaine façon à la question dans le livre lui-même. Je cite, « Tout le présent était pour Angèle, tout pour le cul. Le salut, c'était par là. D'abord, c'était pas le moment de me dissoudre en scrupules. » Voilà. En fait, il faut faire dégorger le truc, quoi. C'est presque renvoyer la violence à l'expéditeur, quoi, au travers de la pratique sexuelle la plus débridée possible. Voilà. Ah oui. Il y a un dérèglement, quoi, très clairement, et totalement assumé.
Avec une phrase définitive qui est « Tant qu'il y a du vice, il y a du plaisir ».
Exactement. Voilà,
on est étonné par...
Non, c'est clair. une question. Comment savez-vous que ce texte a été écrit en 1934 ? Est-ce qu'il y a des repères
Alors, il y a d'une part ce que je racontais tout à l'heure, le fait qu'il écrit à De Noël, son éditeur, à ce moment-là, en juillet 1934, qu'il est en train donc de travailler sur ce qui deviendra Mort à crédit, mais qui est donc l'enfance qui sera suivie de la guerre et de Londres. Et donc c'est un premier indice fort, si je puis dire. Et puis, il y a des brouillons. Comme souvent chez Céline réutilise des pages, des formulaires du dispensaire de Clichy, par exemple. Il écrit au verso sur ses manuscrits et réutilise quelquefois des pages sur lesquelles il a déjà écrit. Et il y a notamment un verso qui contient l'adresse d'Elizabeth Craig aux États-Unis, à laquelle il écrit justement dans cette période-là, justement à cette adresse. Donc on peut difficilement penser qu'il ait réutilisé un verso de manuscrit plusieurs années après l'avoir écrit. Donc on peut penser plutôt qu'il a réutilisé ce feuillet qui contenait une adresse au moment où il l'a écrit. Donc c'est ces quelques indices qui nous font penser qu'effectivement c'est à cette période-là qu'il l'a écrit.
Donc voilà. 2 ans après le voyage.
Oui, enfin, Voyage était publié en octobre 32, hein, donc il a commencé à écrire Mort à crédit en 1933. On peut penser qu'effectivement la période où il a raconté son enfance lui a pris quand même un certain temps, parce que Mort à crédit c'est très gros, et que donc c'est vraiment 34-35 la période où Mort à crédit va être publié en 1936. Donc c'est vraiment dans cette période-là. Enfin, pour moi, ça paraît tout à fait évident que c'est cette période.
Il y aura toujours un mystère, Pascal Fouché, Alban Cerisier, s'il s'agit donc d'un premier G, qu'est-ce que Céline en aurait fait s'il n'avait pas laissé ses manuscrits, parce qu'il est mort sans savoir qu'un jour, on pourrait les lire. Que serait devenu ce premier G, à votre avis? Est-ce qu'il aurait laissé la trame? Est-ce qu'il l'aurait enrichi?
Il y a plusieurs mystères.
Parfait tel que c'est.
Il y a plusieurs mystères, parce qu'il aurait pu le reprendre avant 1944. Ouais. Or, il ne l'a pas fait. Quand après ses écrits polémiques, il se remet au roman, il écrit des morceaux de casse-pipe. On sait qu'il travaille sur casse-pipe à la fin des années 30. Et puis, il se met à écrire, pendant l'occupation, il se met à écrire Guignol's Bande. Au lieu de reprendre Guerre, alors on est en pleine guerre, donc peut-être qu'il n'a pas envie de se replonger non plus dans la guerre, là aussi, ça n'est qu'une hypothèse, et au lieu de reprendre Londres, qui aurait pu être devenir Guignol's Bande, pratiquement, puisque c'est la même époque, le même lieu, le même milieu qu'il traitera.
Ah, Guignol's Bande, c'est le récit de sa vie à Londres.
De sa vie à Londres, absolument. Oui. Et c'est un roman tout à fait différent de Londres. Donc, ce mystère, le fait qu'il ne l'ait pas repris, reste entier. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'il en aurait fait après? Ça, on ne peut pas le savoir. On sait qu'il travaillait énormément ses manuscrits. Donc, il en aurait fait probablement plusieurs versions, et il aurait réécrit jusqu'à ce qu'il juge abouti. Mais là aussi,
le mystère restera. Alban Cerisier.
Oui, moi je trouve que, d'une certaine façon, ce caractère brut fait que ce roman est très très actuel. Enfin, je trouve que, d'une certaine façon, c'est une forme de bénéfice un peu inattendu, en réalité.
Et sa brièveté aussi.
Dureté, pas de concession, il n'y a pas de place à la complaisance là-dedans, très peu de place à l'innocence, ça y va, quoi. On est vraiment... Moi, c'est du feu, en fait.
Peut-être qu'il n'avait pas envie que ça soit publié, si. Enfin, je pose la question...
C'est difficile à dire.
Ouais, on ne saura jamais non plus.
En tout cas, cette question de cet épisode-là, on sait qu'il était de sa représentation, on sait que c'était un point compliqué, puisque dans Voyage au bout de la nuit, à un moment du récit, il dit « je ne peux pas raconter ce qui s'est passé après », c'est-à-dire la période de guerre, hein, précisément. Donc il y a quand même quelque chose qui ressemble à une réticence à aller jusqu'au bout du récit s'agissant de cet épisode précis.
Oui, mais il va publier en 1949 Casse-pipe, précisément, qui est le récit de, je résume, hein, de son arrivée dans l'armée, au 12e, je crois, régiment de cuirassiers.
Régiment de cuirassiers à Rambouillet, donc il s'engage.
Donc nous sommes en 1912, non ?
En 1912, absolument.
Donc on pourrait dire que ce récit-là, la guerre, c'est la suite.
Absolument, c'est-à-dire qu'il va rester 2 ans à Rambouillet jusqu'à ce que la guerre soit déclarée en août 14. Donc il part au front et il est blessé 3 mois après. Et guerre correspond à cette période où il est blessé, où il va être soigné. Et il nous manque, en fait, dans l'œuvre de Céline, la période d'août à octobre 1914, qui est le moment où il est réellement au front, qui aurait pu être le début de guerre.
Oui.
Ou la fin de casse-pipe, ouais. Puisque ça se passe chronologiquement dans cette...
Le paradoxe étant que ce qui est finalement le plus grand traumatisme de sa vie et de son œuvre, d'une certaine façon, en tout cas, c'est l'expérience de puissance de jaillissement là, qui est l'expérience du front, est quelque chose dont il a toujours retardé, d'une façon, la publication. Et du coup, ça rend cette part manquante d'autant plus importante.
Et il faut rappeler qu'il était pacifiste, et ce qui l'a d'ailleurs aussi conduit à quelques extrémités.
Il était devenu pacifiste parce qu'il avait justement connu la guerre, qu'il avait connu cette horreur de la Première Guerre, et qu'il craignait beaucoup la Seconde, et qu'elle est arrivée, et effectivement...
Ce qui explique en partie ces pamphlets, en tout cas, dans une version excessive, bien entendu, outrée.
Je vous propose de l'écouter une dernière fois, justement, à propos de son pacifisme. C'est toujours dans l'entretien avec le journaliste de la radio suisse romande, Albert Zbinden.
Vous êtes pacifiste?
Ah, je suis pacifiste total. D'autant plus que je suis médaillé militaire depuis le mois d'octobre 1914, pas d'hier. Je suis mutilé de guerre 80%. Je le sens, n'est-ce pas, encore actuellement. Par conséquent, j'ai tout à fait le droit d'être pacifiste, n'est-ce pas? Je me suis engagé dans la Seconde Guerre, même comme médecin. D'un bateau, j'ai été coulé au large de Gibraltar. Je connais bien les petits à côté de la guerre. Je n'aime pas, n'est-ce pas? Je ne l'aime pas. Je trouve ça imbécile et tout à fait défavorable à une société quelconque.
Le bon sérieux, c'est exactement ce que vous disiez, hein, le pacifisme au cœur qui a traversé sa vie, ce qui lui a valu aussi quelques aventures peu recommandables. Hein.
Bah, ce qui lui a valu de partir vers la libération, justement, par crainte de ce qui
pouvait. D'entrer dans la collaboration aussi, d'être proche des Allemands, pour le moins. Hein.
Absolument.
Alors, il faut préciser, pour terminer ce numéro d'idées consacré à Céline et à ce récit « Guerre », que ce n'est qu'un début, en quelque sorte, Alban Cerisier.
Oui, parce que donc, dans ce trésor retrouvé, les 6000 feuillets, il y avait donc une autre liasse qui comprend toutes le manuscrit donc, de Londres, qui est la suite de guerre. Donc on retrouve Ferdinand à Londres, il lui arrive tout un tas de choses, mais c'est plus le roman du salut. Enfin, les lecteurs le découvriront, ça y est, on a
déjà
connaît.
Hâte de le lire.
Hein. Ah oui, mais je peux vous en dire que le meilleur, sans rien vous en révéler. Mais on envoie quelques feuillets manuscrits à la galerie Gallimard. Et puis il y a également cette espèce de mythologie portative qui ne l'a jamais quitté, qui est la volonté du roi Krogold.
Oui, c'est étrange dans son œuvre.
On en retrouve des traces dans Guerre, on en retrouve des traces dans Mort à crédit, comme Pascal Fouché le disait. C'était extraordinairement important pour lui. Et d'ailleurs, dans une lettre de 38 de Noël, il fait encore apparaître dans la liste de ses livres à venir, au même niveau que Casse-pipe et que Guignol's Band, qui ne s'appelle pas encore comme ça, la volonté du roi Krogold. Donc cette histoire-là ne l'a jamais lâché. Et elle concentre d'une certaine façon un peu tout ce qu'on vient de se dire là. Le sens de l'existence, le sens de la guerre, qu'est-ce que la violence dans nos vies, etc. Tout ça avec des rois, des princes, des princesses, etc. Bon, c'est la manière, il le disait lui-même, c'est sa manière bardique. Et c'est exactement ça. Et puis nous aurons également en 2023 une édition enrichie de Casse-pipe à partir des éléments retrouvés, et ça sous la direction d'Henri Godard, des éléments retrouvés dans l'autre manuscrit qui était celui de Casse-pipe. Tout ça se trouvait au même endroit.
Donc à suivre, on en reparlera sans doute dans cette émission, c'est sûr. Pascal Fouché, vous avez vécu pendant des mois une expérience incroyable, inédite.
Ah, oui, formidable.
Exceptionnel.
Découvrir comme ça un texte totalement inédit, sans savoir ce qu'il va être, et puis le décrypter avec difficulté aussi. Hein. Ça se présente effectivement du travail, mais c'est formidable. Hein. C'est une expérience inoubliable.
Merci Pascal Fouché, merci Alban Cerisier. Guerre, publié chez Gallimard, à lire absolument. Et je rappelle donc que si vous êtes à Paris ou si vous passez à Paris durant ces prochaines semaines, il y a l'exposition des manuscrits à la Galerie Gallimard, 30 rue de l'Université, donc en plein cœur de Paris, jusqu'au 16 juillet. L'entrée est libre et gratuite et c'est ouvert, je répète, l'après-midi. Merci. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Si vous souhaitez nous écrire, voici notre adresse.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.